Oui, ce que j'ai appris, c'est qu'il est impossible de soigner quelqu'un isolé de son contexte. Ça n'a aucun sens. Je le dis pour l'alcool, je le dirais pareil pour les anorexiques ou les boulimiques. Si vous voulez prendre quelqu'un, vous l'isolez, vous dites on va soigner cet individu, comme on disait dans le temps, on va le désintoxiquer, vous voyez, comme si on le mettait dans le pressing, on lui ressort plus blanc. Ça ne marche pas du tout, ça. C'est-à-dire que moi, je suis même à penser aujourd'hui avec la dimension systémique, c'est-à-dire à la prise en charge globale des choses, c'est-à-dire un peu comme le mobile de Calder, où tout est relié, si vous voulez, eh bien que il n'y a pas de malade alcoolique. Il y a un système alcoolique. Ça serait beaucoup plus juste de le dire comme ça. Il y a quelque chose qui crée des interactions et des interdépendances qui crée un véritable système. D'ailleurs, regardez avec les anorexiques, souvent il y a des parents qui sont eux-mêmes perfectionnistes, qui ont induit un certain nombre de choses. Pris isolément, on pourrait dire que chacun est un peu normal, quoique la normalité n'existe pas. Mais vous connaissez l'expression, hein? Le névrosé construit des châteaux en Espagne, le psychotique y habite, mais le psychanalyste touche toujours le loyer. Faut bien vivre hein, quand même. Hein? Bon. Donc, soigner, prendre soin, c'est tenir compte de tout ça. C'est tenir compte, je dirais, du contexte. Et aborder les souffrances et de l'un, entre guillemets alcoolique, et de l'autre, je veux dire l'entourage. Et je pense qu'il faut éviter l'écueil, ce qui n'est pas facile, d'entrer dans le jugement. Ce que fait la société, ce que fait souvent les familiers du malade alcoolique. Et pour éviter ça, je pense qu'il y a une première porte d'entrée qui pourrait être intéressante, c'est de parler dans un langage commun pour tout le monde. Des choses que chacun connaît. Et ça évite d'avoir un discours trop extérieur à la problématique. C'est parler des émotions. Et grosso modo, de cinq émotions qu'on va tout le temps retrouver dans la relation entourage malade avec l'alcool. La première émotion, je la mets en premier, mais ça ne veut pas dire que ce soit la plus importante ou forcément la plus fréquente, mais c'est la colère. C'est la colère parce que l'entourage, prenons l'épouse par exemple, considère que son mari préfère l'alcool à elle. Colère aussi parce que on est en colère après soi de ne pas avoir vu, de ne pas avoir vu assez tôt, de ne pas avoir vu toutes les complications qui allaient arriver et qu'on était soi-même un peu dans le déni, c'est-à-dire dans une difficulté à reconnaître les choses. Ça, c'est difficile. Et à cette colère-là, merci, il faut opposer l'information. C'est-à-dire ce que j'ai fait là en préambule tout à l'heure, c'est-à-dire de permettre de comprendre que si cette personne est là, prisonnière de son alcool, ben, quelque part, c'était qu'un choix apparent. En fait, elle n'a pas le choix. Voilà. Il s'est passé quelque chose dans le lien avec l'alcool qui fait qu'elle a perdu le choix. Là, on pourrait dire, avec Jean-Jacques tout à l'heure, qu'elle a perdu effectivement un peu son libre arbitre, à ce moment-là.
J'ai un patient qui dit que c'est un choix forcé.
Oui, c'est très bien l'expression choix forcé. Ça me va très bien, si vous voulez. Donc c'est un choix contraint. Vous voyez, on retrouve encore la contrainte par corps. J'ai un patient qui m'a dit un jour, ça me le réclame. C'est joli, parce que presque psychanalytiquement, le ça, la pulsion, ça me le réclame. On est dans le champ du besoin, on n'est pas dans le champ du désir. La deuxième émotion qui est constante. C'est la tristesse. Il y a une tristesse tout le temps parce qu'il y a le deuil, un peu comme le deuil des moments où tout était comme avant. Ça, c'est fini. Il n'y a plus cette paix, cette paisibilité des choses, cette tranquillité intrafamiliale. Tristesse de ne pas avoir compris, de ne pas avoir vu à temps. Tristesse de ne pas avoir su faire, peut-être. Et puis la troisième grande émotion qui est fondamentale, puisque je pense qu'elle est même à l'origine probablement de l'alcool lui-même en tant qu'objet d'addiction ou de conduite addictive, c'est la honte. Jean Maisonneuve, qui est un ami, a écrit un bouquin qui s'appelle Les Alcooléens. Vous voyez, comme quoi il disait justement que le mot alcoolique est un mot encore qui stigmatise. Donc il avait appelé ça Les Alcooléens, c'était provocateur, juste pour expliciter ça. Et le sous-titre de son livre, c'est Sans la honte et le mépris, il guérirait. Hein, c'est rien que ça, j'aurais pu dire ça ce soir, et puis point. Parce que c'est ça qui est fondamental. Sans la honte et le mépris, il guérirait. Vous n'imaginez pas à quel point la personne malade avec l'alcool a besoin, un besoin éperdu de reconnaissance. Et c'est l'inverse qui se passe. puisqu'on les stigmatise. Et puis, cette honte qui effectivement emplit la vie du malade alcoolique. Regardez, par exemple, dans les milieux du travail, c'est qui l'alcoolique ? C'est la personne dont on parle, mais à qui on ne parle plus. Voilà. Donc, stigmatisé, un peu exclu, dans cette difficulté-là, il n'y a qu'une chose qui peut le soulager, c'est de continuer de picoler, c'est le cas de le dire. La peur aussi, troisième émotion très forte. Je suis le mari de mon épouse alcoolique, j'ai peur de la laisser, j'ai peur de la retrouver, j'ai peur des conséquences. Si c'est moi, je suis Madame Durand et que je retrouve Monsieur Durand, j'ai peur de sa violence, j'ai peur des conséquences. Enfin, des peurs. Et comme encore une fois, comme le disait Gérard Vachon France, guérir de l'alcool, c'est retrouver la parole. Faut-il pouvoir en parler de tout ce qui se passe ? En général, ce n'est pas ce qui se passe dans les familles. Il y a des transactions, effectivement, plutôt du côté de la violence. Et puis, il y a la joie. Là aussi, c'est une émotion forte qui existe quand la personne revient, on va dire, sur le bon chemin, a décidé d'arrêter, fait toute une démarche dans ce sens-là. Mais en même temps, elle est teintée d'amertume parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'il retrouve l'activité. Il a même une activité un peu euphorique, même parfois hyperactif. Et du coup, il n'est encore pas là à la maison. Alors, mince! Avant, il n'était pas là, c'était un père absent, un mari ou un père aux abonnés absents, et puis là, mais il n'est plus là non plus. Donc, il y a souvent teinté d'amertume, et puis il y a toutes ces rancunes qui sont là, tout ce qui est là derrière. Alors, ça veut dire quoi, aider l'autre, quand on est effectivement dans l'entourage ? D'abord, je crois qu'il faut, enfin, il n'y a pas de « il faut », ça serait bien de tenter de sortir du piège infernal coupable victime. Le coupable étant, entre bien sûr, le patient alcoolique et la victime, l'entourage. Non, ça ne marche pas du tout comme ça, quoi. Ça, c'est une illusion totale. Ce n'est pas la réalité. Pourquoi ce n'est pas la réalité ? D'abord, parce qu'il faut abandonner ou abattre, je dirais, la gigantesque statue d'infamie qui existe depuis 2 siècles maintenant, où on pense qu'il y a des croyances comme ça, qui sont solidement enracinées depuis 2 siècles. Hein. Qui a bu, boira ? Vous entendez ça ? Qui a bu, boira ? Non, mais de toute façon, il n'a pas de parole. Oui, c'est la parole d'un alcoolique. Oui, ça, il n'a pas de parole. Ou encore, c'est qu'une question de volonté. Alors ça, c'est le mot régulièrement entendu. Bon, quand on veut, on peut. Comme dit le proverbe anglais, « Where there is a will, there is a way ». Bon, c'est que tu ne veux pas, puisque tu n'y es pas arrivé, donc tu n'as pas de volonté. Ah oui, alors mais c'est quoi la volonté ? Nathalie, je ne repose pas la question, si ? La volonté, c'est une tension psychique orientée vers un but. Sauf que chez cette personne-là, il y a 2 problèmes. Tension psychique orientée vers un but, sauf que là, pour accéder à ce but, cette tension est adossée à un besoin vital, je le répète encore, et ce besoin vital, effectivement, c'est l'éponge anti-souffrance. C'est parce qu'il y a des douleurs, des souffrances internes que la personne est court-circuitée, je dirais, dans son schéma volontaire. Et à un moment, eh bien, la rencontre se fait et l'alcool est là, effectivement, comme l'éponge anti-souffrance. C'est-à-dire que c'est aussi stupide de demander à quelqu'un d'avoir de la volonté, comme chez un dépressif, hein, t'as qu'à prendre sur toi quand vous êtes déprimé. Vous imaginez comment cette phrase est salutaire sur le plan thérapeutique. Déjà que vous n'y arrivez pas, on vous dit, tu n'as qu'à prendre sur toi un peu de volonté, tu y arriveras. Ben non, justement. Secoue-toi. C'est à peu près aussi stupide que demander à quelqu'un qui est dans les sables mouvants, eh bien, agitez-vous un peu plus, bougez un peu plus, vous allez vous en sortir. C'est exactement l'inverse qui va se passer, d'ailleurs, s'il fait ça, dans les sables mouvants. Et l'autre, c'est tout le paradoxe de la maladie alcoolique. C'est-à-dire que le paradoxe d'entrée dans la maladie alcoolique, c'est quoi ? Je sais que l'alcool me tue, mais sans alcool, je ne peux pas vivre. Voilà, si on a compris ça, on a tout compris. Je sais que l'alcool me tue, à petit feu, si j'ose dire, mais sans alcool, je ne peux pas vivre. Donc on voit bien qu'on est dans la survie. Ça, c'est le paradoxe d'entrée. Le paradoxe n'est pas une contradiction, hein. C'est 2 niveaux de logique différentes. Je sais que l'alcool me tue, je le sais là, corticalement, là. Mais sans alcool, je ne peux pas vivre, cerveau émotionnel. Et le paradoxe de sortie est tout aussi faramineux. Puisque je ne peux pas m'en passer, je ne vais plus en boire une goutte. Vous vous rendez compte ? Puisque je ne peux pas m'en passer, je ne vais plus en boire une goutte. C'est-à-dire que la personne comprend à ce moment-là que l'alcool est plus fort que lui. Tant que la personne pense que qu'il est plus fort que l'alcool, c'est promis, demain j'arrête, si j'ose dire, c'est cuit, quoi. Hein, il n'y arrivera pas. Donc il faut accepter un moment de descendre de sa toute-puissance donnée par l'alcool pour entrer dans autre chose. Ça, le premier point, donc, c'était déjà cet éclairage-là sur la volonté. Le deuxième, c'est expliciter pour moi le piège relationnel qui empêche toute rencontre véritable, en particulier à l'intérieur de l'entourage et de la famille. C'est deux choses, le déni et la relation parent-enfant. Le déni, c'est quoi ? Ben, vous savez ce que c'est que le déni, et c'est différent du mensonge. Le déni, c'est comme l'enfant avec le doigt dans le pot de confiture, c'est pas moi, c'est ma main. Et ils ont beau avoir le verre à la main, vous leur dites, mais non, je bois pas. Enfin, oui, c'est fou, c'est un mécanisme inconscient très coûteux en énergie, mais qui marche comme l'ardoise magique. Toc, j'ai effacé, ça n'existe pas. Voilà, je suis dans le déni. Alors, pour vous expliquer le déni, histoire de détendre un peu, je vous raconte l'histoire d'un Russe qui arrive dans une brasserie de Poitevine. Je prends un Russe parce que mon père est polonais, puis j'en ai marre qu'on dise fou comme un polonais, parce que c'est pas vrai d'abord. En plus, il était sobre comme tout. Alors, le Russe, il arrive dans la brasserie Poitevine, et puis il appelle le garçon, il lui dit « Garçon !» Alors, le gars, il arrive, il dit « Je voudrais trois vodkas. » Mais trois vodkas l'une après l'autre. Non, trois vodkas ensemble, s'il vous plaît. Bon, piqué de curiosité, il vient voir le gars après, il lui dit « Très possible, si vous voulez poser question, moi, grand plaisir répondre. Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» C'est-à-dire que chez nous, si vous voulez, on prend un Beaujolais, ou un verre, mais on ne prend pas trois comme ça. Et c'est une tradition chez vous. Non, non. Très facile, moi, répondre, gentil monsieur. Je bois santé de mon père, je bois santé de ma mère, je bois ma santé. Ah bon, bah, très bien, merci. Et puis, il vient régulièrement, un mois plus tard, et dit « Garçon, s'il vous plaît, deux vodkas. » Oula, il dit, je ne vais pas lui demander parce que là, ce n'est pas bon ça. Mais animé du prurit de la curiosité, il finit pas. Très facile, moi, répondre à monsieur si vous voulez poser question. Ben, c'est-à-dire qu'avant, si vous voulez, vous preniez trois vodkas comme ça, et puis là, maintenant, c'est deux. Alors, je me posais la question, c'est tout. Très facile, moi, répondre. Je bois santé de mon père, je bois santé de ma mère. Moi, j'ai arrêté de boire. Voilà. Ça, c'est du déni. Oui, c'est-à-dire que c'est une petite historiette pour expliquer qu'à un moment, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on ne voit pas ce qui pourtant saute aux yeux, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce qu'il ne veut pas voir, au fond ? Ce qu'il ne veut pas voir, c'est qu'il est alcoolique. On va le dire comme ça. C'est-à-dire que alcoolique, et encore une fois, on revient à la stigmatisation d'avant, c'était le taré, le vicieux, le menteur, le sans volonté, le père, le violent. Ou alors chez les femmes, c'était encore pire, hein, c'était la femme indigne, la mère dénaturée. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Devant ce déni, où sont parfois les médecins en miroir ? Quand il y a eu une enquête au niveau des médecins généralistes, on leur demandait combien ils voyaient de personnes avec un problème d'alcool, et vu le pourcentage, forcément, ils ont été aveugles, ils ont une cécité psychique à la réalité des patients qu'il y avait devant eux. Pourquoi ? Ben pour des raisons parfois familiales, historiques, personnelles, il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. Voilà. Comment ? J'en en vois jamais. Alors dans l'étude, il y avait effectivement des médecins qui disaient « je n'en vois jamais », ce qui est totalement impossible. Oui. Alors, on peut passer du déni à la dénégation. La dénégation, c'est un degré un peu moindre du déni. C'est-à-dire, je sais bien que je bois, mais bon, en fait, il continue le même comportement, si vous voulez. Donc, il y a une prise de conscience douloureuse, certes, mais bon, on continue. La relation, maintenant, parent-enfant. Alors, puisque ce patient ou cette personne persiste à boire avec le verre à la main et jure que de toute façon, il arrête demain, c'est promis, demain, j'arrête, c'est connu, ça, hein. Et d'ailleurs, il est vrai quand il le dit. Il dit, c'est promis, demain j'arrête. Il a besoin d'ailleurs d'avoir cette conviction. Mais en réalité, il continue. Donc du coup, c'est l'entourage qui prend les décisions à sa place. Et quand vous faites ça en tant qu'entourage, ben, vous devenez parent de cet enfant qui est là devant vous. Et cet enfant, il a beau avoir 40 ans ou 50 ans, ça reste un enfant quelque part. Et là, on est dans une, je dirais, relation folle, parce que le lendemain matin, ce patient-là, il est tout bourrelé de honte, je dirais, et de culpabilité, parce qu'il a bien vu, il a bien entendu tous les reproches. Mais quand vous lui faites des reproches, vous comportez encore comme parent, Et plus, à ce moment-là, il a souffert, plus il boira. Et plus il a souffert et plus il boira, plus il aura aussi l'ardoise de rancune qui va vous servir à un autre moment. Et là, on est dans une relation, je dirais, presque paranoïaque à deux. C'est-à-dire que les rôles vont progressivement se figer. Plus l'enfant souffre et plus il va boire. Et vous, plus vous êtes dans votre, je dirais, impuissance désespérante et répétitive, eh bien, plus vous emballez là-dedans et ça devient des schémas, des transactions épouvantablement violentes. Regardez, par exemple, prenons un couple. Le mari dit, bon, écoute, non, chérie, j'ai compris, demain j'arrête. Et puis il le dit avec une telle conviction que lui-même, il a besoin d'y croire. Et puis le lendemain, il reboit. Et elle, en même temps, avait dit quoi la veille? Et nous, moi, je ne peux plus continuer comme ça, je vais partir, je m'en vais. Et elle a besoin aussi d'y croire qu'il va arrêter de boire. Le problème, c'est qu'il a rebu. Et comme il a rebu, ben on continue dans le même schéma, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on fait un tour de manège, et encore un tour de manège, et un tour de manège, jusqu'au moment où c'est vraiment plus possible. Et là, on a une véritable rupture. C'est-à-dire que c'est un moment où la femme se dit, mais ça peut être l'inverse, hein, c'est le conjoint dit, je ne peux plus continuer comme ça. Là, enfin, c'est peut-être la rupture salvatrice pour elle-même. Bien sûr que ça paraît égoïste, mais c'est fondamental. Parce que sinon, il n'y a aucune solution dans cette histoire. On est dans quelque chose qui est un cercle vicieux, où effectivement, ce n'est plus un père, ce n'est plus un mari, c'est un enfant alcoolisé, c'est la part alcoolique de la personne qui a tout envahi, et qui, ou l'autre est rentré dans une codépendance, malade du voir boire. Et effectivement, si par exemple, la femme dit « bon, ce coup-là, je m'en vais », c'est plus possible. Alors, lui va se mettre à boire encore plus et encore plus fort, il va se mettre minable, il va arrêter de manger, et là, le réflexe de bonne maman qu'il y a chez la femme fait que, non, je ne peux pas le laisser comme ça, il va en mourir. Ça y est, on est bien prisonnier, c'est bien captif. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, comme je dis, la première chose à dire à l'entourage, je crois, c'est ce que je fais, c'est que vous voulez aider votre conjoint, acceptez que vous ne pouvez pas l'aider. Voilà. Ouais, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vivre votre vie à vous, parce que là, votre vie, ce n'est plus la vôtre. C'est une vie dans la codépendance. Donc ça, c'est fondamental de pouvoir énoncer ça, si vous voulez. C'est-à-dire de, face à l'effet stupeur que j'ai décrit. Alors, il y a des différences entre les hommes et les femmes, d'ailleurs, dans les comportements. C'est des nuances, peut-être plus que des différences. Mais quand même, sur le plan clinique, c'est assez intéressant à observer. Et puis, je crois surtout qu'il faut passer du tu au je. Parce que souvent, c'est tabu. Regarde ce que tu as fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on parle sur l'autre. Ce n'est plus du tout la même chose qu'entre l'épouse ou le conjoint, d'une façon générale, dit « écoute, quand tu rentres déguisé en alcoolique comme ça, moi, je ne peux pas le vivre, je ne le supporte pas, je m'en vais. Je vais aller vivre ma vie ailleurs pour le moment où tu es déguisé en alcoolique. » Alors là, ce qui se passe, c'est la chose suivante. En général, quand je dis ça à l'entourage ou quelqu'un de l'entourage comme attitude, la personne dit « alors attendez, je n'ai pas très bien compris là. Est-ce que vous aidez qui finalement ? Parce qu'en plus, c'est moi qui dois m'occuper des enfants. Si vous me demandez de partir, en plus, il faut que j'emmène les enfants. C'est moi qui assume déjà tous les problèmes, les dettes, les problèmes financiers, les problèmes administratifs, etc. Et en plus, vous me demandez de partir. Oui, je dis, c'est à vous que je pense. Parce qu'il faut vous protéger. Et il faut vous protéger de quoi? Du comportement, bien sûr, surtout quand il est violent. Mais aussi, il faut vous protéger au niveau de la sensorialité. Il faut protéger vos tympans, il faut protéger vos narines. Il faut protéger votre corps, parce que c'est là où se font tous les nœuds de la codépendance, parce que ça, c'est insupportable. Eh bien, le fait de dire « je m'en vais », croyez-moi, la personne qui est alcoolisée à ce moment-là, qui est alcoolique, qui est dans la dépendance alcoolique, à un moment va réaliser qu'il n'y a plus trop d'autres solutions que dire « soit je me fous par la fenêtre, mais il faut que je fasse quelque chose ». Parce que sinon, il y a toujours une transaction qui est au fond une transaction perverse quelque part. C'est toujours de tenir l'autre, parce que au fond, l'alcoolique, il sent très bien qu'il a une prise, il a un pouvoir avec son alcool, il a un pouvoir avec sa dépendance. Il peut entraîner l'autre dans son sillage. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Donc ce n'est pas comme ça qu'on peut l'aider. se protéger soi, passer du tu au je. Quand tu fais ça, ça je ne le supporte pas. Mais pas plus que ça. C'est-à-dire que ça c'est déjà... Et puis éventuellement, aller parler à quelqu'un de vos souffrances à vous en tant qu'entourage. C'est tout le rôle aussi des associations d'entraide, c'est tout le rôle des Al-Anon, de pouvoir parler, d'échanger d'autres témoignages. Et parfois, les récits des personnes sont plus efficaces que les paroles des thérapeutes dits professionnels. Pourquoi ? Parce que ça vient vous parler directement au cœur de votre expérience. Si je prends par exemple l'histoire, je vais prendre comme ça, et après peut-être qu'on passera à la discussion pour donner effectivement quelques points de repère. C'est vrai qu'on a entendu, moi j'ai entendu ça quand j'avais commencé en alcoolologie, on disait souvent la personne s'arrête quand elle a touché le fond. Vous avez tous entendu ça, il faut toucher le fond. Non mais d'accord, mais enfin si le fond est très au fond, c'est un peu embêtant. Donc il faudrait quand même mieux apprendre à remonter le fond. Eh bien nous, moi en tant qu'alcoologue, j'ai besoin de l'entourage pour aider à remonter le fond, c'est-à-dire que le fond ne soit pas trop au fond. Et justement, comment aider à remonter le fond ? Eh bien en vous protégeant, en s'occupant de vous, véritablement, ça peut paraître égoïste, mais c'est fondamental. Parce qu'à ce moment-là, vous commencez à exister pour vous-même, et non plus dans la spirale, effectivement, de ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ah, si je prends un exemple clinique, on va l'appeler Madame Durand. Hein. Bon, par exemple, ça fait 3 fois que son mari rentre, Yves, à la maison. Il arrive la nuit, il rentre, il est tellement bourré qu'il s'affale sur le carrelage de la cuisine. Il pisse dans son pantalon. Et puis, bon, il est complètement groggy. La femme, évidemment, éprouve de la colère parce que ça recommence. Qu'est-ce qu'elle fait ? Parce que ça, c'est une histoire vraie. Hein ? Elle appelle le fils aîné. Alors là, on pourrait discuter aussi des relations de collusion entre les enfants et tout ça. C'est, enfin, toute cette codépendance d'entourage. Fils aîné qui se réveille pour aider sa maman, qui la prend en pitié par rapport à ce qu'elle est en train de vivre. Ils se battent même pour arriver à déshabiller le père, le hisser dans le lit, qui lui se retrouve au chaud et au sec dans son lit, complètement, globalement inconscient. Et le lendemain matin, il se réveille, il dit à sa femme qu'il a la grippe, qu'il est dans un état grippal, bien sûr, et qu'il faut prévenir son employeur qu'il ne sera pas sur le chantier le jour même. Vous voyez l'idée, quoi. Eh bien, Madame Durand a fait comme ça 4 actes de codépendance. Elle l'a déshabillé. Elle a fait participer son fils, qui du coup détestera son père encore un peu plus. Elle a fait bien sûr une leçon de morale le lendemain, comme une mère qui fait les récriminations sur son fils qui a fait des sottises. Et elle a appelé l'employeur, ce qui donne une journée de congé. Donc c'est tout bénef pour l'enfant roi alcoolique. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors quand une mère me raconte, enfin quand une mère, la conjointe, la femme me raconte ça, elle me dit mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Vous me dites que j'ai fait 4 actes de codépendance. Ah mais je dis c'est très simple. Le mari rentre à 2 heures du matin, il s'affale dans la cuisine sur le carrelage. Vous mettez à la limite une couverture, vous le tournez sur le côté gauche pour pas qu'en vomissant ça aille dans la trachée et puis vous le laissez là. Et vous voyez là on voit le réflexe de mère, c'est plus l'épouse qui parle, c'est la mère là. Qui inquiète. Et je lui dis, alors, ben, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, vous inquiétez pas, sur le carrelage qui est un peu froid, il va se réveiller à 4-5 heures du matin ou 6 heures du matin, ou à la limite un peu plus tard, au moment où le fils viendra prendre son petit déjeuner pour aller au lycée, et là, il y aura le regard qui vont se croiser du père affalé dans la cuisine et du fils qui part au lycée. Et ça, c'est très mobilisateur, quelque part. Ce travail-là sur la honte, un peu aussi. Parce que la honte, tout n'est pas négatif. Bien sûr, c'est un abjecteur de conscience, mais il y a aussi quand même la fonction sociale de prise de conscience de quelque chose. Et je dis, vous, là, comme ça, vous, vous êtes respecté et vous l'avez laissé là où il est, dans son état. Eh bien, croyez-moi qu'au bout de 3, 4 ou 5 fois, les choses ne vont pas se reproduire, sinon c'est trop facile. Encore une fois, c'est la tyrannie de l'enfant roi. Et sinon, après, il y a toute la cascade de choses qu'on peut imaginer. Alors là, on peut y passer la soirée entière. Entre le fils qui devient le petit mari, le fils aîné, un peu préféré, cette femme qui finalement n'a plus une vie d'épouse, qui se trouve dans son fils aîné, un bon partenaire. On est dans une relation para-incestuelle très fréquente, hein, qu'on voit assez souvent. Le fils qui finit effectivement par détester son père. Mais parfois, c'est la fille, parce que les fonctions symboliques n'ont pas de sexe à ce niveau-là. Et parfois, la fille, elle est à un stade oedipien, donc elle est assez collée au papa. Et alors là, bah, c'est des scènes de ménage qui se passent entre la fille et le père, ou alors des remontrances, ou alors elle est un peu entraînée dedans. Ou alors la fille est plus distanciée dans le rapport de parole avec son père. Et là, on retrouve un peu les mêmes choses qu'avec l'épouse. L'autre. Mais parfois, c'est la mère du père alcoolique qui va intervenir. Ou parfois, c'est la mère de... Enfin, oui. Toutes les configurations peuvent exister qui viennent renforcer et figer les rôles, de sorte que ça devient un moment totalement inextricable. Pour s'en extraire, il faut simplement mettre un rapport distancié d'analyse, si j'ose dire, plus calme, pour bien poser les choses et éviter, et ça je ne le dirai jamais assez, toute la parentification possible, y compris nous, en tant que soignants, et bien sûr éviter la parentification pour vous en tant qu'entourage. Parce que des parents, il en a plein autour du ventre, cet homme-là, ou cette femme-là. Donc l'enjeu, c'est ici d'avoir clairement à l'idée que chez cette personne ou chez cette femme qui est dans la dépendance alcoolique, il y a une part alcoolique, il y a une part non alcoolique. La part alcoolique, c'est celle de l'enfant, presque au sens d'une analyse transactionnelle. C'est un enfant qui va manipuler, c'est un enfant qui est tyran, c'est un enfant qui souffre, bien évidemment, qui a des blessures. Eh bien, il va falloir s'occuper de cet enfant en faisant, je dirais, en adjoignant la partie, je dirais, saine de la personne. Je voulais juste terminer cet exemple par cet exemple. Comment je fais concrètement? Imaginons, Monsieur Durand arrive avec Madame Durand. Monsieur Durand est alcoolique, comme chacun le sait, et donc il est dans sa dépendance alcoolique. Et Madame Durand se plaint terriblement. Vous comprenez le discours, si je demande à Madame Durand qu'est-ce qui se passe, elle va me dire, écoutez, mon mari, c'est impossible. Autrement, c'est un bon garçon, vous savez, quand il n'a pas bu. Mais quand il a bu... Hein, je peux vous garantir qu'il est même violent. Il y a des fois, il m'a bousculé, quoi. Et avec les enfants, c'est impossible. Enfin, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mari, quoi. Bien. Ce qu'il faut, c'est créer un décalage. Parce que si on reste là, dans cette gangue-là, si vous voulez, on ne s'en sort pas. Donc, je vais dire à Madame Durand. Madame Durand, est-ce qu'il vous est arrivé dans votre vie de vous être sentie aimée, accueillie par quelqu'un inconditionnellement? Oui.
Oh, peut-être, mais...
Alors, ça peut être une grand-mère, ça peut être un enseignant, ça peut être n'importe qui. Ok. Imaginons qu'elle dise sa grand-mère maternelle, par exemple, sa grand-mère paternelle, peu importe. Je lui demandais, qu'est-ce que ça lui faisait qu'elle se sentait accueillie inconditionnellement par sa grand-mère maternelle? Et en retour, qu'est-ce que ça faisait à sa grand-mère, justement, qui est cette relation-là? Et petit à petit, j'amène Madame Durand à faire venir dans la pièce, si j'ose dire, cette grand-mère. Et je lui dis, après, ça se déroule un peu, ça demande un petit quart d'heure à peu près de travail. Et je vais dire maintenant à Madame Durand. Madame Durand, maintenant je vais parler avec votre mari. Ce que je vous demande, c'est d'écouter comme si vous étiez votre grand-mère. Et là, quelque chose change parce que l'empathie change. Elle va écouter le discours non plus dans la fonction où elle était, dans le rôle où elle était, de codépendant, mais elle écoute avec cette dimension inconditionnelle, je dirais, comme elle l'a vécu quand elle était enfant avec sa grand-mère. Et là, ensuite, je reviendrai avec Madame Durand, je dirais, bon, maintenant que vous avez entendu M. Durand sur son histoire, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous voyez, on crée comme ça, à partir d'un questionnement circulaire, une dynamique où la personne peut changer son regard sur l'autre. Parce que, qu'est-ce qui nous fait changer d'attitude, si ce n'est le changement de notre regard? Et comme dirait Cesare Pavese, je terminerai par cette phrase, tu seras aimé, A-I-M-E, hein, tu seras aimé, le jour où tu pourras dire ta faiblesse sans que l'autre s'en serve comme un pouvoir sur toi. Merci.
Oui, je voudrais vous dire, vous parlez beaucoup du mari et de la femme, mais qu'est-ce que vous faites des mères et de leurs fils, ou des parents et de leurs fils, ou de leurs filles alcooliques ? Quel comportement la mère peut avoir ? Elle peut pas, la femme peut s'en aller, mais la mère ne peut pas. Alors, on fait quoi ?
Alors, quand vous dites, par exemple, précisez un petit peu votre question par rapport à un fils alcoolique, c'est ça, par
oui,
exemple ?
Voilà.
Qui est quoi ? Plus, lui, dans le binge drinking ou dans des choses comme ça ? Ou est-ce qu'il est... Non ?
En fin de compte, quel comportement peuvent avoir les parents par rapport à leur fils alcoolique ? Parce que moi, j'ai tout eu, tout ce que vous avez énoncé, j'ai tout eu, la colère...
Toutes les émotions négatives.
Tout, voilà, tout.
Alors, une émotion, d'ailleurs...
Et la culpabilité de la mère. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que voilà. J'ai raté ? Qu'est-ce que... Voilà.
Alors, si mon propos d'aujourd'hui vous a aidé à penser que, justement, vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit, oui ? Parce qu'il faut sortir... Non. Oui. Mais je sais que ce n'est pas facile.
Je le sais, tout le monde nous le dit, mais bon...
Vous le savez là, voilà. Vous ne le savez pas forcément là. Ce que je veux dire, c'est déjà que toute émotion négative, on dit émotion négative, c'est faux en fait. Même sur un plan neuroscientifique, une émotion est toujours un signal donné au corps et au sujet pour lui dire qu'il y a quelque chose à faire. Toute émotion, quelle qu'elle soit, est un signal qui me dit quelque chose doit être pensé ou doit être agi différemment, ou doit être représenté différemment. Le problème, c'est que là, dans ce que j'entends, vous êtes piégé vous-même dans une représentation, effectivement, d'une certaine forme de culpabilité. Oui, et donc, vous allez vouloir réparer. D'accord ? Et plus vous voulez réparer, plus le cercle infernal se met en place.
Mais oui, je m'en rends compte.
Voilà.
Je m'en rends compte, mais je ne sais pas comment faire pour avancer et pour l'aider à avancer, surtout l'aider à mais avancer.
Non. Aidez-vous, vous. Ce n'est pas lui qu'il faut aider, c'est vous, là. C'est-à-dire... Encore une fois, quand je disais passer du tu au je, c'est-à-dire exprimer les choses. Ce n'est pas la même chose quand je dis à mon fils ou à ma fille qui est, par exemple, qui prend du cannabis, quand je te vois prendre du cannabis avec les effets, ce qui n'est pas vrai, elle ne prend pas de cannabis, mais enfin, avec les effets qu'il y a, je ne sais pas moi, pétard du matin, poil dans la main, pétard du soir, trouble de mémoire. Je peux lui sortir des petites phrases slogans comme ça, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je parle de moi. Je parle de mon ressenti. Et je vais même parler de mon impuissance. Et je me sens complètement impuissant par rapport à ça. Je ne comprends pas ce que tu vis. Là, déjà, je ne sais pas. Le je ne sais pas ouvre un espace. Sinon, ça veut dire que c'est vous savez. Et là, vous êtes dans le parent, au sens transactionnel, qui fait que l'autre n'accède plus du tout à sa dimension adulte. Il reste en tant qu'enfant, si vous voulez. Et vous le maintenez dans la posture enfant. Et plus vous le maintenez dans la posture enfant, eh bien plus il va être l'enfant capricieux, plus l'enfant manipulateur, plus l'enfant... Vous voyez ce que je veux dire ? Commencez à parler de vous. Commencez à dire que vous ne savez pas. Commencez à dire que vous ne comprenez pas. D'ailleurs, il n'y a rien de mieux pour un adolescent de dire qu'on ne comprend pas.
Mais c'est pas un adolescent.
Non, mais si c'était à l'adolescence, ça serait très important de le dire. Parce que le pire, c'est les parents qui disent aux enfants, moi de mon temps... Où j'ai compris que, où je sais que, voilà. Et là, il n'y a plus d'espace, si vous voulez. Donc, il y a un mur qui s'érige. Ce que vous voulez faire, là, dans ce que j'entends, hein, il y a la tête du fils, et il y a un mur. Vous savez qu'il va dans le mur. Et vous mettez la main entre sa tête et le mur. Eh bien, en réalité, dans un premier temps, vous avez l'impression de le protéger, et en réalité, vous le conduisez de façon très négative. Il faut enlever votre main du mur. Il vaut mieux qu'il se cogne un peu dans le mur. Oui. Je sais que c'est difficile à entendre.
Mais je pense que c'est ça qui est efficace. C'est qu'à un moment, la personne accepte qu'on ne puisse pas l'aider. D'ailleurs, il y a des gens qui sont là pour aider, véritablement. Oui. Il y a les aidants naturels, si j'ose dire. Il y a les aidants professionnels. Alors, vous allez me dire, oui, mais il ne veut pas, par exemple. Voilà, il ne veut pas. Ben oui, mais il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas ? Parce que peut-être que la transaction est restée dans quelque chose qui ne lui permet pas encore ça. Parce qu'il sait qu'il y a encore un appui de protection. Mais il y a encore la bouée, là. Et ben voilà.
Complètement, oui.
Voilà. Donc abandonnez votre rôle de bouée. Merci. Vous n'êtes plus bouée à partir de ce soir. Voilà, non mais c'est ça, Jean-Jacques, oui, bien sûr.
pour s'engager dans le soin, il faut être confronté à quelque chose de l'ordre de la perte, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose à un moment donné qui nous confronte à la question du manque, enfin, qui confronte à cette question-là, et qu'il puisse commencer à mettre en pensée un travail autour de cette question. Hein. Alors, ce que peut faire l'entourage, c'est nommer la difficulté, c'est-à-dire qu'effectivement, la personne en difficulté avec l'alcool, comme vous l'avez dit, n'est pas forcément en capacité de reconnaître la difficulté. Mais une fois que l'entourage a nommé la difficulté, c'est à la personne d'en faire ou non quelque chose. Mais peut-être faut-il qu'il perde encore des choses et après, à chacun son niveau de perte hein, pour passer au soin.
Soupé, vous avez parlé de l'alcool, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres addictions quand même qui pourraient trouver des remèdes un peu comparables? Je pense à la cigarette. Pardon. Est-ce que c'est complètement différent?
C'est très proche parce qu'on est quand même dans l'oralité. Là, on est quand même dans un trouble de l'oralité. Hein. L'oralité, ce n'est pas la bouche uniquement. Hein, c'est les yeux, les mains et la bouche. Hein, c'est une espèce de triangle comme ça. Bon, on retrouve un peu les mêmes choses. Mais même, je dirais, dans l'anorexie mentale, on va retrouver aussi un peu les mêmes composantes psychopathologiques. Je dirais chez un héroïnomane, c'est autre chose. Ou celui qui s'injecte dans une veine, c'est autre chose.
D'accord. Et ceux qui sont drogués au chocolat, mettons
Alors, les chocolatomanes existent. Ma femme est un peu chocolatomane, d'ailleurs. Mais bon, elle se soigne, elle va bien. C'est-à-dire qu'elle a réduit un peu, quoi. Mais vous savez, c'est intéressant, d'ailleurs, l'histoire de la chocolatomanie. Juste une petite parenthèse. J'ai lu une étude dans les archives de médecine interne américaine, il y a quelques années, où ils ont dépensé énormément d'argent pour savoir pourquoi on devenait addict au chocolat. C'est intéressant quand même. Vous savez qu'il y a à peu près 400 à 600, je ne sais plus exactement, on va dire 400, ça j'en suis sûr au moins, constituants du chocolat, dont un grand nombre pourrait être considéré, puisque vous avez des dérivés de la caféine, de la théobromine, vous avez des dérivés cannabinoïdes, etc., dans le chocolat. Donc on s'est dit, peut-être qu'il y a un truc là-dedans qui génère l'addiction au chocolat. Alors les gars ont fait des études très très sérieuses. Ils ont fait des chocolats placebo, si vous voulez, où on avait enlevé certains des constituants, les bases oxantiques, d'autres les dérivés cannabinoïdes. Et ils ont fait donc une étude assez onéreuse où les gens mangeaient du chocolat, puis ils ont regardé s'il y avait une tendance addictive ou pas. Et puis la conclusion, qui est quand même extraordinaire, surtout dans une revue américaine, c'est les gens deviennent addicts au chocolat parce que c'est bon. Voilà, c'est tout. Moi je trouve... Alors l'alcool, c'est pas parce que c'est bon. L'alcool, c'est pas parce que c'est bon, c'est très rare que l'alcoolique, entre guillemets, trouve que ça, c'est ça qui est bon. Lui, ce qu'il cherche, c'est pas ça, c'est l'effet psychotrope de l'alcool. On est d'accord. Quand même si au début, il y avait dans la convivialité un goût, il a pu y avoir au début un goût pour l'alcool. Je partage l'avis de la regrettée et une grande amie à moi qui s'appelle Michel Mongeos, qui a beaucoup écrit sur des ouvrages passionnants sur l'alcool et sur la personne alcoolique, où elle dit ceci, et je le crois, je vais vous dire pourquoi je le crois, parce que c'est maintenant validé neuroscientifiquement, c'est que l'alcool crée la bouche. Bizarre ce que je dis. Autrement dit, l'enfant qui naît, dans l'interaction avec la mère, il a besoin d'une interaction, on parlait de sécurité affective tout à l'heure, il a besoin d'une interaction vivante, accordée à la mère, ou du moins que la mère s'accorde bien à l'enfant. Or, il s'avère que ces petits bébés-là auraient un mauvais accordage, comme le dit M. Stern, avec la mère, ou substitut de mère. De sorte que la bouche n'est pas assez érogénéisée. Hein, si on vous donne le sein ou le biberon, mais que la mère ne respecte pas votre propre rythme, c'est vous qui allez vous adapter, mais du coup, votre bouche n'est pas faite. Elle n'est pas suffisamment érogénéisée. Et comme cette bouche n'est pas assez érogénéisée, quand vous prenez de l'alcool, vous cherchez un produit fort qui vous donne la sensation de création d'une bouche, très vite. D'accord ? Alors, je suis allé voir mon ami Lionel Nakache à la Salpêtrière, qui est un grand neuroscientifique spécialiste de l'IRM fonctionnel, et je lui présente ma réflexion là-dessus. Il me dit, écoute, c'est intéressant parce que la bouche, dans l'homoculus, c'est-à-dire la représentation de notre corps humain dans le cerveau, la main est très grande et la bouche est très grande. Toute cette zone-là est très grande, très agrandie par rapport au reste du corps. Et il dit effectivement, chez beaucoup d'alcooliques, eh bien la zone S2, c'est celle-là, la somatotopie de cette partie-là, est pas atrophiée mais très diminuée. intéressant. Ça veut dire que, vous voyez, il y a cette idée quand même, dans l'alcool, c'est pas par hasard qu'on choisit pas l'objet complètement par hasard. Pas plus que la cigarette non plus, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une rencontre qui correspondait à des choses probablement manquantes ou défectueuses dans l'organisation, dans la structure, on va dire dans la sculpture psychique. Et du coup, eh bien, une fois que c'est engrammé, par contre, là, le circuit addictif devient une machinerie automatique, quoi. C'est-à-dire que vous avez beau dire, maintenant, j'en veux plus. C'est pour ça qu'on ne peut pas devenir les professionnels du pourquoi en matière d'alcoolologie, parce que le pourquoi en tant que cause, on n'est plus dans une causalité linéaire. On ne peut pas raisonner en une cause, un effet. On ne peut pas raisonner en disant, ouais, je suis alcoolique parce que ma mère ou parce que mon père, etc. C'est bien insuffisant pour le dire. Oui, on va trouver qu'il y a des histoires traumatiques. Oui, on va trouver qu'il y a eu un défaut de protection. Oui, il y a une dimension insécure qui est vulnérabilisante. Oui, on retrouve tout ça. Mais en même temps, le pourquoi, il est circulaire. C'est-à-dire qu'à un moment, ben, on a des causes multiples, puis à un moment, pof, le truc vient s'engrammer, etc. Et c'est là où c'est difficile, parce que à ce moment-là, quand il y a en particulier on est au niveau de la dépendance physique, eh bien là, la consommation contrôlée, elle devient quasi impossible, quoi. Enfin, c'est mon point de vue. Non, Jean-Jacques. Madame.
Non, j'avais une question. S'il vous plaît, parce que vous avez parlé de d'explications psychologiques ou psychiatriques, mais est-ce qu'il peut y avoir des médications avec l'hypnose ou avec psychologie, enfin avec l'hypnose par exemple, ou même l'acupuncture ou
non. Alors attends, on va peut-être pas tout mettre dans le même sac. Je pratique l'hypnose depuis une quarantaine d'années. Je l'utilise volontiers dans les troubles d'addiction. Pourquoi ? Parce que je considère que je parle de l'hypnose ericksonienne, hein, je parle d'une hypnose métaphorique, je parle pas l'hypnose de cabaret, si vous voulez, hein, c'est pas ça. Hein, l'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire qui utilise des images où on entre dans un état, on dit modifié de conscience, c'est une veille paradoxale en fait, l'hypnose. Hein, c'est un état où on passe d'une perception restreinte à une perception élargie. Regardez, la personne qui est dans une addiction, monsieur parlait du tabac. Vous êtes dans le tabac. Et bien, donc, vous êtes dans le tabac ou dans l'alcool. Si vous demandiez à votre corps, ça te plaît ? Le corps est là. Vous êtes là. Ça te plaît de fumer ? Ouais, non, c'est dégueulasse. Ça me fait tousser. Vous voyez ce que dirait le corps ? C'est impossible, quoi. En plus, ça sent mauvais, etc., etc. L'alcool, on pourrait dire pareil. Qu'est-ce qui vous permet de rentrer dans l'addiction ? C'est que vous êtes dissocié de votre corps. Justement, vous n'êtes pas dans votre corps. Si vous étiez réellement dans votre corps, pratiquement, vous ne pourriez plus être dans l'addiction. Ça, c'est assez étonnant quand même. Donc, le principe, c'est que quand je suis dans l'alcool, dans le tabac, dans ce que vous voulez, je suis dans ce qu'on appelle une perception restreinte. Il n'y a que cet objet-là. D'accord ? En même temps, je suis dissocié de mon corps. C'est ce qu'on appelle un blocage dissociatif. Le fait d'induire un état hypnotique permet de me réassocier progressivement au corps. Exemple. Nathalie est une patiente. Ah, encore elle, mets-toi comme ça. Voilà. Nathalie vient me voir. Elle a un problème ou d'alcool ou de tabac, ce que vous voulez. Mais elle est obnubilée par son problème d'addiction dont elle veut se sortir. Comme un tabagique veut sortir de son tabac, il n'y arrive pas. Alors, je vais lui poser, bien sûr, les questions habituelles, mais sans rentrer, effectivement, dans un interrogatoire policier, parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Comme disait Michael Balin, posez des questions, vous n'aurez que des réponses à peine plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, chez Nathalie, lui permettre de se réassocier à son corps. Alors, je vais faire... Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais je vais faire une chose comme ça. Est-ce que je peux vous poser une question étrange ? Personne ne m'a dit non. Hein. J'ai quand même quelques années d'expérience. Personne ne m'a dit non. Ce qui est curieux. Je m'attendrais à ce que quelqu'un me dise non, justement. Bon. Est-ce que vous pouvez regarder vos mains comme ça ? Voilà. Et vous le faites en même temps en miroir. Je me pose la question. Non, regardez vos mains. Est-ce que vous pensez qu'une main peut soigner ou guérir ? Est-ce que l'hypothèse qu'une main peut soigner ou guérir vous paraît recevable ? Une main non ? Les deux ?
Non.
Une main ne peut pas soigner ou guérir ?
Non.
Je ne sais pas. Alors, il y a des métiers où on utilise ses mains pour soigner ? Oui.
C'est-à-dire, par exemple.
Très bien. Alors, donc, c'est une main et une pensée. Et là, là, ça pourrait soigner, par exemple. Vous pouvez l'accepter comme idée. OK. Sur quelle partie de votre corps vous mettriez ? Ça serait plutôt la main droite ou la main gauche pour vous ? Parce que c'est la main de l'action ? La main de l'action. Et sur quelle partie de votre corps vous mettriez la main pour prendre soin de vous ? Vous voyez comment je tourne après ? Pour prendre soin de vous. Allez-y. Fermez les yeux. Vous avez bien fait de venir. Et voyez, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Juste cet exercice-là, très court, permet à la personne de se réassocier à son corps. Je vous assure qu'après l'exercice, qu'on va juste commenter rapidement, mais après la personne est déjà plus en elle. Donc on peut aborder des choses, alors qu'autrement, on aurait été uniquement dans une représentation très distante du corps. Vous voyez l'idée ? Quelque part, ce type de questionnement est déjà un questionnement d'induction hypnotique, puisqu'il permet de passer d'une perception restreinte à une perception élargie. Vous voyez l'idée ? Voilà. Pour répondre à votre question, effectivement, l'hypnose peut être un bon outil. L'acupuncture, j'en sais rien, là, j'ai pas d'expérience. J'en douterai un peu, parce que, sauf pour le tabac, peut-être. Peut-être pour le tabac. Mais dans ce que j'ai lu, puisque je viens de faire une préface pour un bouquin « Arrêter de fumer », dans tout ce que j'ai lu comme méta-analyse, il n'y a pas une méthode vraiment radicalement supérieure à une autre. C'est la relation aussi qui compte. C'est qu'est-ce qui se passe dans la relation. Je crois qu'il faut oublier parfois un peu l'aspect technique pur pour aborder la question de la relation. Une autre question ?
Oui. Non, moi simplement je voulais dire que je suis... je m'appelle Nicole et je voulais dire qu'il existe une association, je veux dire du bien des associations d'aide aux personnes avec des problèmes d'alcool. Alors moi, je me présente Nicole, alcoolique, hein, mais je suis abstinente depuis 18 ans. Et je voudrais dire aux gens que c'est une maladie, on peut s'en sortir. Et surtout en fréquentant quand même, ce qui aide beaucoup, ce qui a beaucoup aidé, c'est en fréquentant quand même les associations où on rencontre des personnes qui ont eu le même problème. Je crois que pour un malade alcoolique, c'est bien de rencontrer des personnes qui ont connu les mêmes souffrances. Et je pense que de partager avec des gens qui ont eu les mêmes, qui ont connu, ça peut beaucoup aider. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis alors, de vivre maintenant mon abstinence heureuse, c'est ce que je veux dire.
C'est ça.
Ce que je voudrais dire, quand même, c'est une maladie, on peut s'en sortir. Hein. C'est surtout, il ne faut pas penser boire toujours, oui, mais on peut arriver et arrêter quand même. C'est ce que je voulais quand même témoigner, c'est une maladie, on peut s'en sortir quand même, faut pas désespérer. Voilà, c'est ce que je
voulais dire. Il y a une vie dans l'alcool, il y a une vie sans alcool. Oui. Et il y a une vie hors alcool.
Voilà,
on est bien d'accord.
Voilà.
Sauf que, quand même, je vais juste préciser, vous avez parfaitement raison, Nicole, de dire que le rôle comme ça des associations d'entraide est absolument fondamental. Et comme l'écrivait mon ami Lionel Bénichou, si ces associations n'existaient pas, il faudrait les inventer. Ce qui prouve bien qu'il pensait que c'était un apport considérable. Mais que le problème là aussi qui est posé, c'est que très souvent, les gens pensent les alcooliques, c'est tous les mêmes. Comme on dira, les anorexiques, c'est tous les mêmes. C'est faux. Derrière chaque histoire d'alcool, il y a une singularité de récit très différente. Alors oui, il y a des points communs. Vous dites, on retrouve les mêmes choses. Oui, il y a des choses qui sont, comment je dirais, repérables sur le plan d'une identité, mais qui ne peuvent pas résumer la personne, bien évidemment.
Hein ? Le fait de parler de ce problème...
Tout à fait. Parce qu'il y a un effet en miroir de quelque chose où l'autre, étant un peu plus avancé, peut effectivement, par sa propre histoire, donner ce que j'appellerais un délégué narcissique. Si vous voulez, quelque chose que l'on met à l'extérieur de soi, sur lequel on peut s'appuyer. Ah tiens, Nicole, elle a fait ci, elle a fait ça. Ouais, c'est pas bête. Ouais, ça me parle bien, ça. Ça, je le sens bien au moment, là, à l'endroit où je suis. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Mais en même temps, c'est malheureusement, enfin ou heureusement d'ailleurs, plus complexe parce que l'histoire singulière de chaque individu est évidemment plus complexe. Il y avait quelqu'un qui...
Moi, j'ai plus trop en tête, mais écoutez, vous parliez du fait qu'il y a chez beaucoup d'alcooliques, de personnes malades de l'alcool.
Avec l'alcool, j'ai
dit. Avec l'alcool. De trauma dans l'enfance. Est-ce que, enfin, j'ai deux questions en une. Il y a dans l'histoire de ces, enfin, dans la vie actuelle, vous parliez de temps circulaire. Mmh. Et est-ce qu'en fait, dans leur vie quotidienne, il y a une réactivation par des facteurs déclenchants dans l'environnement de trauma
Absolument. C'est ce qu'on appelle une reviviscence traumatique. C'est pas une réminiscence, c'est une reviviscence. Des situations viennent faire remonter, si vous voulez, la dimension émotionnelle traumatique qui est là et qui vient justement paralyser, si j'ose dire, le cerveau d'anticipation, notre lobe frontal ici, qui fait qu'à un moment, je suis comme interdit, quoi. J'arrive même plus à raisonner ou à penser, et du coup, l'alcool est là pour m'aider à ne plus penser. Ouais.
Alors, vous parliez de la cure, merci, par la parole.
Oui.
Mais ça peut prendre. Enfin, l'intérêt, ça serait d'arriver à identifier, à mettre en mots ces traumas. Mais c'est peut-être pas toujours possible.
Vous savez quel est le principal traumatisme ? Bon, bien sûr, on va toujours penser à les premières choses qui nous viennent à l'esprit : l'abus sexuel, les violences physiques, avoir été battu. Quel est, à votre avis, le traumatisme le plus déstructurant qui existe ? Quoi qu'il n'y a pas de barème sur l'échelle du traumatisme, on est bien d'accord.
L'impossible.
Enfin, il y en a un qui est particulièrement déstructurant, c'est la négligence affective. Exactement, la négligence affective. Et là, c'est redoutable. Parce qu'à la limite, vous n'avez rien à dire, ou pas grand-chose à dire. Vous avez juste manqué de l'essentiel. Hein ? C'est-à-dire le fait de vous sentir aimé et reconnu. Sauf que toutes les situations de la vie... où ça va être en reviviscence, alors effectivement, ça va être assez, assez difficile à vivre dans votre existence. Quoi. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est identifier, énumérer, repérer tous les traumatismes possibles. Ce que je crois, en revanche, c'est que quand il y a traumatisme, moi j'utilise une technique, hein, quand il y a vraiment traumatisme documenté, qui est l'EMDR, hein, c'est-à-dire... comment on dit
Eye
Movement Desensitization Reprocessing, c'est-à-dire reprogrammation neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires, mais ce n'est pas que les mouvements oculaires. Il y a aussi les battements, le côté auditif, parce que ça permet de désactiver cette partie du cerveau qui est toujours en prise avec le traumatisme et qui a une mémoire implicite, c'est-à-dire une mémoire procédurale, qui a mal appris quelque chose. Il y a une mémoire dysfonctionnelle. Donc, il faut permettre à la personne de réapprendre à fonctionner différemment. Il y a comme un mauvais apprentissage. On peut le dire comme ça. Hein. Dans l'addiction, il y a comme un mauvais apprentissage. J'ai pris une solution pour un problème. C'est comme dans les troubles des conduites alimentaires. Hein. J'ai une réponse alimentaire à un problème qui n'est pas d'ordre alimentaire. J'ai une réponse alcoolique à un problème qui n'est pas du problème de l'alcool. Simplement, ça, cet objet-là ou cette conduite-là, m'a permis de réguler quelque chose sur le plan homéostasique. Ça m'a permis de me redonner au moins pour un temps en équilibre. Voilà.
Je vous remercie. Et une petite dernière question. Et dans ce cas de figure, vous préconisez le MDR, et si la personne réussi à identifier des traumas, les mettre en mots, oui. S'invente des sortes de mantras, des phrases dont elle essaie de se convaincre, ça ne sera peut-être pas suffisant.
Non, se convaincre n'est pas suffisant. Après, des approches méditatives dans l'alcool, ça demande du temps avant de faire vraiment de la méditation. Je ne conseillerais pas, parce qu'il y a un premier temps où la personne, ce qu'elle ne supporte pas, c'est le vide, si vous voulez. D'ailleurs, on avait ça au début, c'est un peu l'image d'Épinal, hein, du psy qui écoute le malade alcoolique. Allongez-vous sur le divan, silence, je vous écoute. L'autre est confronté à un vide abyssal, il pense qu'à un truc, c'est picolé, là. C'est, voilà. Il ressort de la consultation, il va dans le premier truc qui est venu, quoi. Parce que c'est impossible, ça. Il y a un vide qui est intolérable. Donc, la question face, je vous disais, à la faille narcissique, au fait que je ne peux pas investir moi-même valablement, donc il y a des trous, des béances, il va falloir que je fasse des passerelles symboliques pour créer des petits ponts devant ce canyon ou ce ravin ou ces difficultés. C'est quoi ces petits ponts ? C'est de la parole habitée ? C'est de la relation ? C'est ça qui fait que petit à petit, il se recoue quelque chose. C'est un vrai tissage cognitif, si j'ose dire, oui, qui se fait, qui est nourri de symboles, d'affectifs, etc. C'est-à-dire que je pense que quand on suit, enfin, moi je parle pour nous, là, en tant qu'alcoologue, quand je suis un malade ou une malade avec l'alcool, Il faut que j'accepte, moi, de devenir la bouteille de l'autre. La différence, c'est que je suis une bouteille qui parle. Quand même mieux, si vous voulez. Mais il faut que j'accepte d'être la bouteille de l'autre. Il faut que j'accepte de devenir, pour un temps, son objet d'addiction. Autrement dit, comme disait Mark Twain, on ne se débarrasse pas d'une mauvaise habitude en l'achetant par la fenêtre, il faut lui faire descendre l'escalier marche après marche.
Et avec quelqu'un.
Et avec quelqu'un.
Ouais.
Et bien sûr.
Merci.
Parce que, comme disait Winnicott, un bébé tout seul, ça n'existe pas. Mais comme dit mon ami Cyrulnik, une personne adulte toute seule, ça n'existe pas non plus. Il faut être deux, il faut au moins deux pour faire un homme. On ne peut pas penser seul. Voilà, comme dit Nathalie, là. On ne peut pas penser seul. Comment ? Il faut être deux pour faire un enfant et vous dites c'est une connerie ? Non, non, je vous assure que non. Hein. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Bon. Vous voyez, c'est intéressant même que la fin du débat arrive sur cette notion-là. C'est-à-dire c'est vraiment la notion, l'histoire de l'alcoolisme, c'est une maladie de la relation. C'est une maladie de la relation. Si on comprend que c'est une maladie de la relation et qu'on n'en rentre plus dans certaines transactions qui pérennisent finalement la relation, c'est-à-dire que j'accepte de ne pas comprendre, j'accepte de ne pas savoir, et puis surtout ce qui est difficile, c'est accepter parfois de ne rien faire. Attention, ce n'est pas un rien faire en disant passif, hein, c'est un rien faire actif, c'est-à-dire bienveillant, toujours dans la relation à l'autre, ouvert, si j'ose dire. Regardez souvent, regardez quand vous parlez entre vous. En moins de 30 secondes, la personne a déjà un avis sur l'autre, dit quelque chose qu'il faut, mais tu devrais, tu... Enfin, voilà. C'est ça sans arrêt. Alors imaginez pour l'alcoolique, vous le ramenez encore à une situation d'abjecteur de conscience, de honte, de culpabilité, etc. C'est impossible, quoi. Un jour, j'ai eu un patient alcoolique, comme ça, qui était dans ma consultation, et qui, à un moment, alors il était dans une logorée. Alors c'est un peu péjoratif le mot logorée, mais il était un peu alcoolisé, manifestement. Et puis, il disait des trucs, mais alors vraiment, on sautait du coq à l'âne. Bon. Donc j'ai à un moment décroché. Mais lui, dans la relation, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, docteur, vous ne m'écoutez plus. Et là, j'ai eu un réflexe salutaire, je ne sais pas d'où il m'est venu, de lui dire, vous avez parfaitement raison. Parce que j'aurais pu prendre ma position d'autorité et dire, mais si, je vous écoute. Quand je lui ai dit, non, effectivement, je ne vous écoutais plus parce que j'adhérais pas trop à tout ce que vous me disiez. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Lui, il a compris qu'en fait, la relation était toujours là. Alors que si j'avais une posture d'autorité, je brisais la relation. Oui ? On a le droit de dire, je comprends pas. On a le droit de dire je ne sais pas. On a le droit de dire bah oui, je vous écoute plus. Mais la notion d'authenticité là-dedans, elle est quand même très importante, quoi.
J'ai un petit commentaire à faire. Je pensais à la dame qui parlait de son fils tout à l'heure. J'ai une personne alcoolique aussi dans ma famille. Et par rapport à votre exemple, effectivement, la personne, elle se retrouve par terre avec le regard de ses enfants qui arrivent le matin, etc. La difficulté, c'est qu'au bout d'un moment, la personne, elle disparaît, elle s'en va quand elle est dans cet état-là. Et je trouve que la difficulté pour la famille, c'est de ne pas intervenir parce qu'on a peur qu'elle meure. C'est-à-dire quand la personne, elle a beaucoup bu, qu'elle disparaît, qu'elle prend sa voiture, qu'on ne sait pas où elle est pendant 3, 4 jours, une semaine, ni dans quel état, ni où, c'est très difficile pour l'entourage de ne pas avoir peur que la personne soit morte ou qu'elle tue quelqu'un d'autre.
Ou qu'elle tue quelqu'un d'autre.
Et je trouve que c'est la limite par rapport à la famille, où on n'intervient pas, ok, où on est bienveillant, actif, ok, mais il y a quand même toujours cet endroit qui est très difficile.
Vous avez parfaitement raison, quand il y a une menace en particulier par rapport à la voiture, et ça m'est arrivé il y a 15 jours de le dire à quelqu'un dans la famille, vous prenez les clés de la voiture. Quand on peut. Comme ça m'est arrivé dans mon cabinet. Et vous savez que dans mon cabinet, ça m'est arrivé il y a pas loin d'une dizaine d'années. La personne aurait parfaitement pu porter plainte contre moi. Je n'ai pas le droit de prendre les clés. Hein. Alors on fait comment ? Vous voyez que là, on est effectivement... vous avez raison, hein, il y a des situations limites qui sont difficiles. Bon, là, je parlais tout à l'heure de la situation chronique et régulière et répétitive où par moment... ne plus jouer leur rôle de parent protecteur, c'est pas mal, ça permet autre chose.
Mais justement, je trouve que cet endroit, il est très difficile à définir quand on aime la personne, quand on a de l'amour pour la personne, que ce soit un frère, moi c'est mon frère, un enfant, etc. Cet endroit, il est très difficile à définir.
Alors, vous avez raison, je vous rejoins sur le fait que ce qu'il faudrait à ce moment-là, c'est que vous, par exemple, dans votre difficulté là à définir, vous en parliez avec quelqu'un. Là encore, c'est ce qui va constituer une représentation où vous, à l'intérieur de vous, vous allez mieux sentir la limite. Vous voyez, on ne peut pas le définir comme ça, comme un plan, quoi. C'est impossible à faire. Mais par contre, en parlant, quelque chose est possible. Et je vais juste vous raconter et terminer avec mon ami Palomino de Jonzac, qui me dit un jour, tu sais, j'ai soigné des alcooliques sans jamais les avoir vus. Je dis, ça y est, Palomino, il a pété un plomb. D'ici, parce que j'ai vu un jour, par exemple, l'épouse d'un patient alcoolique, et qui me disait, écoutez, docteur, il faut faire quelque chose, vous êtes psychiatre, vous avez un dispositif thérapeutique, il faut le soigner malgré lui, parce que là, il est vraiment... madame... La personne, c'est pas votre mari que je vois, c'est vous que je vois là. Et elle, qui lui explique tous ses déboires, si j'ose dire, dans ce fait d'être malade, devoir boire, et toutes les conséquences. Et puis la personne, ce que dit mon ami Palomino, c'est, écoutez, ce que je peux faire, ça certainement, c'est vous voir vous, pendant quelque temps, parler avec vous de vos difficultés. Et donc là, ils échangent sur les difficultés. En échangeant sur les difficultés, elle change de représentation, change d'attitude. En changeant d'attitude, confère le mobile de Calder, vous bougez une pièce, tout le reste bouge. Et le patient décide à ce moment-là de se soigner. Et voilà. Et en fait, il n'a jamais vu Palomino. Oui. Mais vous avez raison, la limite, elle est, on ne peut pas la définir comme ça. Ah, Dieu, baclofen. Ouais, oui, alors Dieu. Alors, cela étant, j'ai été un des premiers à prescrire le baclofen en Aquitaine. Dans certaines situations, parce que je considère que sur le plan pharmacologique, le baclofen peut apporter dans un craving, c'est-à-dire dans une obsession, une impulsion à boire de façon importante, peut donner des résultats. Maintenant, dire que le traitement de la maladie, entre guillemets, alcoolique, c'est le baclofen, non. Non, non. Ça peut être pour un passage, ça peut être pour un temps donné et pour certaines indications données. Mais mettre alcool égale baclofen, enfin, moi, j'en suis pas. Hein.
Il n'y a pas de traitement médicamenteux. Je crois que les médicaments peuvent éventuellement être nécessaires à un moment donné, mais en aucun cas, ils ne représentent quelque chose qui serait de l'ordre d'une solution.
Merci.
Sauf si ça permet de donner un traitement, ça permet de voir le patient et de faire ce qu'on appelle globalement un suivi psychosocial et de remettre un peu de parole avec quelqu'un, mais le temps de la prescription n'est qu'un temps de prescription parmi autre chose.
Encore une fois, la cure, c'est qu'une cure de parole. Elle peut être agrémentée ou non de baclofène à un moment en fonction des...
Baclofène ou dalbéphène, puisqu'il y a un nouveau médicament qui va sortir.
Oui, le Célincro, oui.
Voilà, qui lui a l'indication pour, en effet, diminuer le craving, donc l'envie de boire auprès de certains patients. Voilà. Mais c'est simplement un temps pour certains patients, à certains moments, dans le cours de la prise en charge. C'est...
Oui, merci. Vous disiez tout à l'heure que c'est impossible de soigner quelqu'un hors du contexte.
Du contexte.
Pouvez-vous nous redonner le sens de cette affirmation si on se place du point de vue des SDF par rapport à l'alcool, à l'alcoolisme, sachant que, comment dire, est-ce qu'il faut les sortir de leur situation de SDF pour soigner l'alcoolisme? Et quand vous dites les soigner dans leur contexte, on sait que parfois les SDF sont déjà dans un double processus d'auto-exclusion parce qu'ils sont, on va dire, exclus de la société et ils s'auto-exclus. Voilà.
C'est ce que dit Jean Furtos.
Voilà, c'est tout à
fait. Magnifiquement d'ailleurs. Là, c'est vous faisiez référence à Jean Furtos.
Absolument,
là,
oui.
Alors là-dessus, bon, dans la grande précarité, vous avez raison, parce que là, le contexte, c'est quoi, hein? Et là, on est effectivement dans un contexte qui est d'une rare dureté, d'ailleurs, et souvent d'une rare violence, d'ailleurs, avec des territoires bien balisés aussi. Hein. C'est compliqué, hein, de l'extérieur. Quand on ne connaît pas le milieu des SDF comme ça, on a des fausses représentations aussi. Mais là, c'est difficile. Simplement, on sait que la première urgence, c'est de réhumaniser la relation. Quoi. Hein, c'est de loin ça qui est fondamental. Après, c'est un peu, effectivement, ça vient un peu contredire ce que je disais tout à l'heure sur traiter dans le contexte, puisque là, c'est quoi le contexte ? C'est effectivement très difficile. Mais à partir du moment où je peux commencer à recréer un lien en réhumanisant la relation, alors peut-être quelque chose, il y a un tissage possible qui va redonner là du contexte pour le coup. Oui. À condition que moi, je ne décide pas de dire ce qui est bien pour l'autre, hein, de là où il faut que je le mette. C'est là où est le danger, à mon avis. J'ai eu un jour un SDF qui est venu, alors ça je m'en rappellerai toute ma vie, hein, parce que il était là dans la salle d'attente, très honnêtement ça sentait le fauve dans la salle d'attente, d'ailleurs je l'ai senti avant d'entrer, je me suis dit tiens, il vient mendier, maintenant c'est bien, il démarche carrément, il vient de mendier directement dans les salles d'attente, bon pourquoi pas, et je lui dis mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, il me dit je voudrais faire une psychothérapie, il avait une valise avec lui, pas une valise, une bâche comme ça, une vache là, en cuir là, ou en cuir un peu abîmé, mais enfin, il avait ça. Donc, je le fais rentrer. J'avais personne à ce moment-là. Je le fais rentrer. Et le gars m'explique son parcours. Il était anciennement chef d'entreprise. Il était également, c'était un guitariste. Et puis, un jour, son entreprise a fait faillite pour des raisons qu'il m'a expliquées, qui étaient, bon, peut-être liées à une mauvaise gestion, mais pas que. Et sa femme l'a quitté. Et il est rentré dans la spirale. Et en moins de 3 ans, il est rentré, il s'est retrouvé à la rue, quoi. Voilà, il s'est retrouvé à la rue avec des dettes, avec tout. Bon. Et en fait, dans son sac, il avait des carnets noirs, je me rappelle, avec un élastique, vous savez, ces carnets élastiques. Et depuis 3 ans qu'il était à la rue, il observait. Il faisait des dessins, c'était vraiment comme des carnets de voyage. Et il expliquait ce qu'il voyait, les notions de, c'est lui qui m'a expliqué les notions de territoire, le litron qui sert de monnaie d'échange, enfin toutes ces choses-là qu'on retrouve volontiers dans beaucoup d'ouvrages, en particulier de De Clercq, hein, les naufragés. Voilà. Et je lui dis, mais pourquoi vous voulez faire une psychothérapie ? Il m'a dit, parce que je voudrais comprendre ce qui m'est arrivé, je voudrais comprendre le sens de mon histoire et des catastrophes qui me sont arrivées. Et je lui ai dit, mais après, c'est pour vous réinsérer dans la société ? Il m'a dit, surtout pas. Ouais. C'est-à-dire que son but, ce n'était pas la réinsertion. C'était pour lui que la vie ait un sens, mais qui n'était pas forcément celui d'avant. Quoi. Vous voyez, comme quoi, parfois, on voudrait imposer des choses ou dicter des choses qui ne sont pas forcément justes. Donc là, la notion de contexte aussi est difficile. Il est revenu, sauf qu'il avait quand même une complication hépatique qui l'a amené à être hospitalisé dans un service des pathologies. Je crois que ça a duré assez longtemps et après, il n'a pas repris contact. Je l'ai eu pendant pas loin de 6 mois. Voilà. Type absolument passionnant. Hein, passionnant. C'est vrai. Une vision du monde. Alors, il me notait ses observations. Il me disait, si vous saviez, docteur, ce qui est le plus important, c'est le regard. Comment on nous regarde ? Parce que ça, j'en ai pas parlé, mais dans l'attachement, chez l'alcoolique, c'est très important. Et vous savez que dans la honte, la différence de la culpabilité, quand vous vous sentez coupable, on a tous ce sentiment de culpabilité, du moins je l'espère, parce qu'il est quand même une fonction sociale. Mais la culpabilité, c'est facile, ça pousse à parler. La culpabilité, ça pousse à vous justifier. Ça pousse à pardonner quand on a fait du mal, si c'est une vraie culpabilité. Mais la honte, comment vous soignez la honte ? Comment vous soignez l'abjecteur de conscience ? Quand vous avez la honte, vous avez envie de disparaître dans un trou de... Ouais, vous avez envie de disparaître, purement et simplement. Alors comment on soigne la honte ? Donc quand vous avez quelqu'un qui a un problème avec l'alcool qui est devant vous, vous êtes sûr de toute façon à 100% qu'il y a de la honte. Comment vous faites ? Nathalie, qu'est-ce qui soigne la honte ? Ça a été dit, hein, tout à l'heure. Tout a été dit, d'ailleurs. Est-ce que ça suffit ? Non. Oui, sûrement qu'il y a la bienveillance, la chaleur, l'empathie, l'authenticité font partie des ingrédients de la relation. Indispensable, condition nécessaire, mais pas suffisante. Curieusement. C'est d'abord, comme disait Michel Mongeuse, tout soin, s'il est dénué de jugement, est déjà thérapeutique. Et le jugement, on l'a déjà dans le regard. Voilà. Donc le regard, et après, ce que disait Jean-Jacques, la parole, les bribes de parole qui vont lui permettre que lui nomme sa honte. Et là, il peut commencer à se sortir de la honte. Ouais, mais c'est pas facile. Hein.
Un accueil, c'est une ambiance et tout voilà. Ça qui soigne la honte.
C'est un climat.
Oui. Donc nous allons remercier vivement Gérard Osterman pour cette intervention. Merci beaucoup. Vous rappelez à tous que le Centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie accueille à la fois les personnes en difficulté, mais aussi l'entourage, et que donc vous pouvez vous adresser au XAPA pour venir parler de ce que vous vivez. Donc toutes les coordonnées sont dans les documents qui sont sur la table à la sortie de la salle. Et je vous remercie de votre présence ce soir. Merci beaucoup et à bientôt.